La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici ce matin, et bienvenue particulièrement peut-être pour celles et ceux qui entrent ici pour la première fois ce matin à l'occasion de congés, de vacances, de voyages à Paris. Vous êtes ici les bienvenus dans ce lieu où nous nous réunissons ce matin dans la communion fraternelle et aussi avec celles et ceux qui sont au loin, alors peut-être pour des raisons de vacances aussi, et qui nous regardent ce matin. Et j'aurai une pensée particulière pour les ressortissants français qui sont au Japon ce matin. Je voudrais maintenant vous inviter à commencer ce temps de culte avec ce premier répond dans le psautier français. Et c'est Sarah Kim qui est à l'orgue ce matin avec nous et qui nous accompagne. Nous nous réunissons par le chant avec le premier répond de la liturgie. Nous louons Dieu, béni sois-tu, sauveur des humains. Tu viens pour nous ouvrir les cieux et dans ta lumière, tu nous fais une place pour accueillir ta nouveauté. Béni sois-tu, sauveur des humains. Tu viens ôter de nos cœurs le voile. Par ta vie donnée, tu chasses l'obscurité, tu exerces nos regards à la foi. Béni sois-tu, sauveur des humains, tu viens murmurer à nos oreilles une parole de commencement. Notre esprit tressaille à ta sagesse en faisant l'apprentissage de ton nom. Béni sois-tu, sauveur des humains, tu viens féconder notre histoire en faisant corps avec nos fragilités. Ton amour s'élargit aux dimensions du monde. Il est temps de faire route avec toi. Amen. Je vous invite à chanter ce cantique dans le psaume 42, les strophes 1, 2 et 3, comme un cerf altéré brame. vous invite à vous asseoir. Dans l'Évangile selon Matthieu, un pharisien demanda à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La loi. Écoute. Quelqu'un t'appelle et dit ton nom. Écoute. Il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à l'exclusion, à la violence. Il veut faire de toi quelqu'un d'actif, artisan de paix et de justice. Écoute. Toi qui es là, au loin, ouvre la porte à celui qui frappe. Ouvre la porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité. Écoute. Il te dit de t'aimer, d'aimer les autres, et le monde, et Dieu, et la vie, et l'éternité. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Nous nous présentons devant Dieu avec ces paroles du prophète Ésaïe. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole de grâce renouvelée sur chacun et chacune d'entre nous ce matin. Le Seigneur dit « Va, ta foi t'a sauvé », que cette parole vous mette en marche, qu'elle vous aide à vivre, qu'elle vous rappelle que si votre foi parfois n'est pas très sûre pour vous, le Seigneur la connaît. Et lui croit en vous. Nous restons debout pour partager ensemble cette confession de foi empreinte de scepticisme, mais qui nous conduit. Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Je voudrais le croire, mais ce sont des hommes qui ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience dès son enfance que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois l'amour plus fort que toute mort. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 17 à 24. De la foule, quelqu'un répondit à Jésus. « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'en ont pas été capables. » Jésus leur dit « Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment. Il tomba par terre et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » « Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Je vous invite à chanter le psaume 25, les strophes 1 et 2. « À toi, mon Dieu, mon cœur monte. » Nous prions ensemble. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et qu'elle nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions tes prophètes pour ce monde. Amen. Pourquoi l'un est-il croyant et l'autre pas? Cette question semble à bien des égards insoluble. Comme si la foi s'était abattue sur l'humanité inégalement, sans pouvoir toucher tout le monde, et aurait donc oublié certains sujets. La perspective d'une foi aléatoire paraît totalement injuste. Mais elle permet de régler ce problème facilement. On dira, c'est parce qu'on n'a jamais entendu parler de Dieu qu'on n'a pas la foi en lui. Cet argument a été employé par bien des missionnaires pour convaincre, parfois sous la torture, celles et ceux à qui l'on avait annoncé le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qui pourtant continuaient à croire en leur divinité ancestrale ou à résister à toute foi. Ces païens-là avaient eux aussi la foi, me direz-vous, et sans doute aurait-il fallu accepter que leur Dieu n'ait pas le même nom que celui des chrétiens et il n'y aurait pas eu de problème. Cela voudrait dire que ce sont des dogmes qu'il faut croire et que c'est à un contenu de la foi qu'il faut adhérer pour se dire croyant. La foi serait donc une adhésion à des énoncés tenus pour vérité et qui toucheraient à la transcendance. Mais alors, autant de peuples, autant de dogmes, autant de cultures, autant de mythes fondateurs, de divinités et de panthéons, comment reconnaître le vrai du faux? À quoi faudrait-il croire? En qui faudrait-il placer sa foi? La comparaison des cultures et des langages suffirait-elle à démontrer qu'au final, tout le monde croit, mais ne le dit pas de la même façon? Pourtant, même avec cette ouverture d'esprit sur les autres façons de concevoir la foi, il existe bel et bien un athéisme qui ne se laisse pas réduire si facilement aux aspects culturels qui régissent les religions. La foi ne serait alors ni une affaire de langage, ni une affaire de vérité, mais bien autre chose que certains auraient et d'autres pas. Que veut dire avoir la foi? Est-il possible de posséder une telle disposition d'esprit? Y a-t-il une façon de bien la conserver? Est-ce une denrée périssable? Les théologiens du protestantisme libéral ont mis leur point d'honneur à ne pas exclure les athées de leur système de pensée. Wilfred Monod lui-même écrit un livre qu'il intitule « Aux croyants et aux athées » et dans lequel il résout la distance qui les sépare par un christianisme social dont l'athée et le chrétien peuvent partager l'exigence. Et Wilfred Monod a vécu cette exigence. En fait, c'est l'amour du prochain qui suppléerait au manque d'amour pour Dieu et permettrait de faire de la foi une question secondaire. Athées et croyants se retrouveraient ainsi dans l'acte bon, dans l'œuvre bonne. Dans bien des cas, cette façon de dépasser le problème de la foi permet de mener ensemble les mêmes combats humanistes. Et c'est déjà beaucoup mieux que les violences de quelques inquisiteurs qui prétendent savoir ce qu'est avoir la foi. Mais soyons honnêtes, cela n'explique pas d'où vient que certains disent avoir la foi et que d'autres disent ne rien ressentir de tel. Alors, d'aucuns diront que l'athée ne sait pas qu'il croit, mais en fait il refuse la foi que Dieu lui propose. L'athéisme serait alors un refus de la foi qu'on a déjà reçue en germe, mais qu'on ne veut pas mettre en pratique ou auquel on ne veut pas adhérer. Dire cela ne respecte pas la parole de l'athée qui dit sincèrement que pour lui, il n'existe pas de Dieu, ni la parole de l'agnostique qui, lui, n'affirme pas qu'il n'y a pas de Dieu, mais ne ressent aucunement son existence. Alors, est-ce Dieu qui donne la foi à certaines personnes et pas à d'autres? Si tel était le cas, pourquoi la donnerait-il à certaines personnes et pas à d'autres? Selon quels critères et dans quelle finalité? Il m'est arrivé très souvent de dire que Dieu seul donnait la foi. Je l'ai très souvent cru. Pour qu'on ne donne pas trop de pouvoir aux églises qui croient toujours qu'elles ont autorité sur les âmes, et pour ne pas prendre la responsabilité de la foi des jeunes et des enfants qu'on confiait à l'école biblique dont j'avais la charge. Pas question pour moi de promettre qu'on donnerait la foi aux enfants en leur faisant connaître la Bible. Mais j'avoue que l'affaire n'est pas si simple. Dire que Dieu donne la foi, c'est avouer à celui qui ne l'a pas que Dieu n'a pas voulu la lui donner et c'est un aveu d'abandon. On retrouve ce sentiment d'abandon dans le texte de Marc que nous avons lu aujourd'hui. C'est l'histoire d'un malheur, comme il en existe parfois dans une vie humaine, comme il en existe dans les familles qui parcourent cette église, qui viennent y chercher une parole. Un malheur qui emplit tout et fait que la vie tout entière en est changée, empêchée, menacée. C'est l'histoire d'un père qui a peur pour le fils auquel il a donné la vie et d'un fils qui ne s'appartient plus et risque de perdre la vie. C'est l'histoire d'un jeune homme mu par une force que la raison ne comprend pas, par une maladie que personne ne peut dompter à l'époque où il vit. Un esprit muet, dit le texte, un souffle, pneuma dans le texte grec. Mais ce souffle ne parle pas. Le souffle dans la Bible, c'est la vie d'habitude. Et là, c'est un souffle muet, un souffle qui ne dit pas qui il est. Il est muet et donc n'a pas de sens. Il ne se dit pas, ne se parle pas. Il est inhumain. Et dans toute cette histoire, il n'est question que de foi. Là où l'on attendrait de la rationalité pour soigner, selon une stratégie efficace. Tout est possible à celui qui croit. Cette affirmation renvoie à son incapacité. Quiconque n'est pas capable de transformer le monde par la foi. Jésus se fâche d'abord contre ses disciples qu'il qualifie de génération sans foi. Le grec emploie le a privatif, apistoi. Les disciples sont privés de foi. Il serait étrange que selon Jésus, ses disciples auxquels il ouvre chaque jour la voie vers son Dieu soient privés de foi par ce même Dieu. Il parle de génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés d'une autre génération avant eux. Cela voudrait-il dire que leurs pères ne leur ont pas transmis la foi qui pourrait les aider à guérir l'enfant soumis à cet esprit muet ? Les disciples auraient été privés d'un bien précieux qui ne leur a été donné ni par Dieu ni par leur père, et pourtant Jésus leur reproche ce manque. De quelle façon les disciples sont-ils incroyants ? Dans la deuxième partie de son livre « Être et avoir », Gabriel Marcel écrit ses réflexions sur la foi et il tente de dire les manières d'être incroyant, ainsi que les manières d'être croyant. Il prend notamment le cas de l'incroyant militant qui dirait « Je sais qu'il n'y a rien ». Si vous cherchez à me persuader du contraire, c'est que vous êtes trop lâche pour regarder en face cette terrible vérité. Ce pessimisme qui fait comme s'il était possible de savoir qu'il n'y a rien à la place de Dieu n'est pas plus objectif que la crédulité qui préfère penser qu'il y a des raisons de croire sans prendre le temps de les connaître. Ainsi le philosophe Gabriel Marcel renvoie-t-il dos à dos l'incroyant militant et le crédule qui ne cherche pas à comprendre, qui laisse sa raison se relâcher et ne cherche pas plus loin à comprendre pourquoi il croit, ce qu'il croit et en quoi il croit. La foi n'a pas pour objet de savoir quoi que ce soit. Et elle ne peut trouver ses preuves que dans une relation toute subjective à ce qu'elle croit. Est-ce là où la raison s'arrête, là où elle échoue à expliquer le sens de nos existences que commence le monde de la foi ? Doit-on se contenter d'une foi qui comble les vides de notre raison et revenir au mystère dans lequel les protestants libéraux voyaient le risque des abus d'autorité les plus grands, celui des églises sur les âmes, de celles et ceux qui essayaient de trouver des guides et qui tombaient sur des églises qui leur disaient « il n'y a rien à comprendre, c'est un mystère ». Mais peut-être sans utiliser de cette façon la foi, peut-on la considérer sous l'angle de ce qu'elle produit ? Gabriel Marcel continue ses réflexions sur la foi en se tournant vers les fruits de la foi, comme le fait la Bible quand elle affirme que c'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre de la foi. Et il écrit « Il n'y a pas de foi sans fidélité. La foi n'est pas par elle-même un mouvement de l'âme, un transport, un ravissement, elle est une attestation perpétuelle. » Le terme « attestation » est employé ici pour parler de la vie du croyant qui deviendrait un témoignage rendant crédibles les raisons de croire en un Dieu lui aussi fidèle. C'est donc la vie du croyant qui donnerait les gages de l'existence de ce Dieu. Mais l'objection survient immédiatement sous la plume du même philosophe. Que faites-vous, diront-ils, de ceux qui ne peuvent que témoigner des injustices dont ils ont été victimes, des souffrances de tous ordres qu'ils ont subies, des abus dont ils ont été les spectateurs, mais parfois les victimes aussi? Comment peuvent-ils témoigner d'une réalité supérieure? En effet, si nous sommes destinés à être des témoignages vivants de la foi en un Dieu qui est lui aussi fidèle, comment faire devant toute la misère et la tristesse que nous voyons dans ce monde? Le Père qui vient montrer son Fils aux disciples de Jésus en espérant qu'ils le soulageront, vient-il malgré le mal ou à cause du mal? Est-il venu en désespoir de cause parce qu'il a tout essayé, ou dans l'espérance de ce salut auquel jusque-là il n'avait pas accès? La question n'est sans doute pas dans son cas si importante, puisque ce qui compte réellement pour lui, c'est la vie de son fils. Mais il n'empêche que le malheur n'est pas forcément la cause de l'absence de foi. À l'objection du mal contre la foi, Gabriel Marcel répond: s'il y a une conclusion qui se dégage irrésistiblement de l'expérience spirituelle de l'humanité, c'est que le plus grand obstacle qui en fait s'oppose au développement de la foi, ce n'est pas le malheur, mais la satisfaction. Il y a une parenté intime entre la satisfaction et la mort. Dans quelque domaine que ce soit, mais peut-être surtout dans le domaine spirituel, un être satisfait, un être qui déclare lui-même qu'il a tout ce qu'il lui faut, est déjà en état de décomposition. Au-delà de l'accent moralisateur d'une telle conclusion, cette pensée philosophique nous amène à considérer la foi non comme un objet que l'on posséderait, mais comme une dynamique tournée vers l'avenir, où la foi est intimement liée à l'espérance et, par la suite, à la joie, au-delà du mal qui peut nous assaillir, une sorte de lame de fond qui vous rend de toute façon espérant et joyeux, quoi qu'il arrive. C'est sans doute cette espérance qui manque aux disciples. Ils se croient satisfaits parce qu'ils ont Jésus avec eux, parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont trouvé leur satisfaction dans la rencontre avec Jésus le Sauveur. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Jésus n'est que le modèle de l'espérance à laquelle ils sont appelés eux-mêmes. Tout reste à faire. C'est à eux de faire exister cette façon de vivre selon la liberté que leur a donnée Jésus. Jésus leur dit d'ailleurs: « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Des disciples, de Jésus ou du Père de l'enfant, le plus croyant ce jour-là, c'est sans doute le Père. Le Père qui s'est fait tout entier prière pour son Fils, qui est venu chercher l'aide qui lui manquait, sans se dire que cela ne servira à rien, et qui a vu en lui le désir profond de croire tout en constatant combien cette foi avait besoin de secours. Le secours de la réalité, le secours du changement de sa situation. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Dans son livre « La liberté de la foi », le théologien Laurent Gagnebin, ici présent, écrit « La condition du croyant et des croyants n'est pas forcément une chance. » Le penser est absurde et montre pour le moins que l'on n'a rien compris à ce qu'est, à ce qu'implique et signifie une foi authentique. Je partage volontiers le cri du psalmiste disant à Dieu: je me suis fié à toi, ne me laisse pas le regretter, dans le psaume 25. La foi ne règle rien, on l'aura compris. Et même si dans ce texte de la Bible, Jésus arrive à chasser cet esprit mauvais, même si les miracles ont été employés comme force de persuasion, comme preuve dans les évangiles, il n'empêche que nous savons tous et toutes ici que quand la maladie qui n'a pas de solution médicale survient dans nos familles, la foi semble bien incapable de régler la maladie elle-même, de la soigner, de la guérir. Alors que fait-elle cette foi? Où est-elle et où est-il ce Dieu? La foi ne règle rien en effet. Elle semble bien impuissante à première vue, tellement impuissante que l'on a peine à penser qu'elle serve jamais à rien. Pourtant, cette espérance au-delà de la réalité, sans être une naïveté sur la réalité, sans être un échappatoire, une fuite, cette foi profonde au-delà du mal, cette foi qui nous dit que contre les source de mal dans nos vies, il y a des sources de vie qui perdurent, est une source d'espérance sans cesse renouvelée, une source de vie qui ne s'éteint jamais. J'ignore si c'est Dieu qui suscite la foi, malheureusement je ne vous donnerai pas la réponse ce matin. Mais je crois que le monde considéré selon les modalités de cette foi n'est pas le même, et que notre regard change sur ce monde quand on prend garde au fait que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a peut-être quelque part un Dieu qui veille et qui nous encourage à continuer, quel que soit le chemin, et même si cela semble à certains moments absurde. J'y reconnais une possibilité d'avenir que le pessimisme et le fatalisme ne nous offrent pas, une liberté que rien ne peut anéantir, un horizon que rien ne peut oblitérer. Éternel, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Amen. Je vous invite à chanter un cantique extrêmement connu dans le protestantisme, le 278, la foi renverse devant nous. Je vous invite à chanter les trois strophes. Voilà, je vous invite à vous asseoir après cette petite dose de chant guerrier et un peu martyrologique aussi. Enfin, vous avez plusieurs choses dedans, plusieurs ingrédients. Mais voilà, en tout cas, c'est toute une époque. Alors, c'est Quentin qui va partager avec nous les annonces pour la semaine qui vient. Merci, Quentin.
Merci, Béatrice. Alors, bonjour à tous, y compris à celles et ceux qui nous suivent en direct sur YouTube. Donc, quelques annonces pour le programme de cette semaine qui va être assez chargé. D'abord, juste à l'issue du culte, Béatrice recevra Laurent Gagnebin, qui va nous parler de son dernier livre, La liberté de la foi, qui est disponible à la librairie. Donc, n'hésitez pas à rester après le culte pour écouter Laurent nous parler de son livre et lui poser vos questions. Lundi. Donc, lundi 3 mars, le groupe protestant des artistes se réunit autour d'un atelier peinture avec Anne Jenkins à 10h à la maison presbytérale, qui sera suivie par une conférence et une lecture du bateau des Kerlegen, qui est un conte de Noël de Jean-Jacques Néret. Le lendemain, donc le mardi 4 mars, ce sera une journée assez chargée également, avec un culte d'intercession avec scène à 12h30, et un déjeuner convivial en salle mono à 13h15. Déjeuner qui sera suivi par un partage biblique avec Béatrice. Donc le thème de l'année pour les partages bibliques, c'est les villes réelles et fictives de la Bible. Et cette séance portera sur les eaux urbaines. Est-ce que tu veux dire quelque chose en plus
Alors la maîtrise de l'eau dans la Bible est un signe, un symbole très important qu'on retrouve dans plusieurs textes prophétiques et jusqu'à dans l'Apocalypse. où évidemment la Jérusalem céleste a des canaux d'irrigation. Et donc ces canaux d'irrigation sont à la fois de l'ordre de la réalité dans les villes antiques, mais aussi de l'ordre du symbolique dans la théologie. Et donc c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et nous aurons la joie d'avoir Béatrice Margueron, archéologue, qui pourra nous parler aussi de ces très anciennes villes où la maîtrise de l'eau était essentielle. Voilà.
Très bien. Alors, toujours en début de semaine, Anne Velty va proposer deux séances de grec biblique, le 3 mars à 19h pour les confirmer, et le 4 mars à 17h pour l'étude de l'évangile selon Jean, toujours à la maison presbytérale, donc rue de l'Oratoire, juste en face. Et je termine avec dimanche prochain, le 9 mars, le culte sera présidé par Béatrice Cléromazir dans le cadre de la Journée mondiale de prière des femmes, avec des prières préparées par les femmes des îles Cook sur le thème « Vous êtes mes créations merveilleuses ».
Alors, ce sera le lendemain de la journée pour les droits des femmes, et donc évidemment, ce sera un peu la thématique de ce dimanche. Voilà.
J'en ai terminé avec les annonces. Donc, c'est maintenant le moment de l'offrande, le don joyeux et généreux. Passez un très bon dimanche.
Merci, Quentin. Je vous invite à la prière. Éternel, viens au secours de notre manque de foi. Quand nous voyons la guerre s'étendre à de nombreux pays, quand nous voyons l'arrogance avec laquelle les hommes responsables se parlent, quand nous voyons les essais de paix qui se soldent par un mépris. Éternel, viens au secours de notre manque de foi et ne permets pas que nous cessions d'espérer la paix, que nous cessions d'espérer la paix juste, celle qui rétablit, celle qui permet à un état de vivre librement, avec ses propres règles, avec son autonomie, avec sa dignité. Éternel, viens au secours de notre manque de foi. Quand nous voyons nos médias déverser sans cesse la violence du monde, nous dire que nos sociétés sont gangrénées par le mal et la brutalité, ne nous laisse pas être tentés par cette image et ouvre nos yeux sur toutes les actions bonnes que les hommes et les femmes font dans notre société pour que le monde aille mieux, pour que le lien entre les hommes et les femmes de cette société soit plus apaisé, que plus de justice règne, que la vie dans toute sa beauté, dans son caractère le plus précieux, soit respectée, aimée. Tous ces artisans de paix, tous ceux qui font le bien sur la terre sont sans cesse oubliés. Alors viens à notre secours et donne-nous d'espérer avec eux. Et si ce n'est pas encore fait, de nous mettre en marche pour travailler avec eux, pour faire en sorte que chacun, avec son action individuelle, puisse donner à ce monde un autre visage. Éternel, viens au secours de notre manque de foi quand dans nos vies singulières, dans l'intimité de nos vies privées, la maladie vient oblitérer l'avenir, quand le mal surgit, quand dans une famille la mort arrive sans que personne ne s'y attende et que le deuil envahit tout. Quand le chômage plonge toute la famille dans la précarité et que l'avenir semble incertain, fragile, viens au secours de notre manque de foi. Et que chaque jour nous nous relevions en espérant demain, juste le jour d'après. Que nous trouvions chaque jour la force d'avancer et de donner à notre existence la grandeur que tu veux pour elle, la beauté que tu veux pour elle, la vie. Éternel, nous te remettons toutes les situations dans lesquelles nous voudrions espérer avec toi. Montre-nous ta fidélité et permets que nous soyons assez forts dans notre faiblesse pour croire sans cesse que tu offres demain comme un jour pour la vie. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons pris une halte ensemble. Nous avons pu penser notre foi et peut-être la penser avec un A au milieu, peut-être la guérir de tous ses doutes, peut-être la rendre plus acceptable dans sa fragilité. Alors allez et soyez croyants tels que vous êtes. Allez avec la confiance chevillée au corps. Quoi qu'il en soit, dans notre monde, vous avez votre place, vous avez votre rôle. Vous êtes attendu quelque part pour travailler au règne de Dieu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous garde dans sa fidélité. Amen.